Chapitre 17. Qu'on ne me reproche pas d'être prolixe dans les détails, c'est la manière des voyageurs. Lorsqu'on part pour monter sur le Mont Blanc, lorsqu'on va visiter la large ouverture du tombeau d'Empédocle, on ne manque jamais de décrire exactement les moindres circonstances, le nombre des personnes, celui des mulets, la qualité des provisions, l'excellent appétit des voyageurs, tout enfin jusqu'au faux pas des montures pour l'instruction de l'univers sédentaire. Sur ce principe, j'ai résolu de parler de ma chère Rosine, aimable animal que j'aime d'une véritable affection, et de lui consacrer un chapitre tout entier. Depuis 6 ans que nous vivons ensemble, il n'y a pas eu le moindre refroidissement entre nous, ou, s'il est élevé entre elle et moi quelques petites altercations, j'avoue de bonne foi que le plus grand tort a toujours été de mon côté et que Rosine a toujours fait les premiers pas vers la réconciliation. Le soir, lorsqu'elle a été grondée, elle se retire tristement et sans murmurer. Le lendemain, à la pointe du jour, elle est auprès de mon lit dans une attitude respectueuse et au moindre mouvement de son maître, au moindre signe de réveil, elle annonce sa présence par les battements précipités de sa queue sur ma table de nuit. Et pourquoi refuserais-je mon affection à cet être caressant qui n'a jamais cessé de m'aimer depuis l'époque où nous avons commencé à vivre ensemble? Ma mémoire ne suffirait pas à faire l'énumération des personnes qui se sont intéressées à moi et qui m'ont oublié. J'ai eu quelques amis, plusieurs maîtresses, une foule de liaisons, encore plus de connaissances. Et maintenant, je ne suis plus rien pour tout le monde, qui a oublié jusqu'à mon nom. Que de protestations, que d'offres de services, oh, je pouvais compter sur leur fortune, sur une amitié éternelle et sans réserve. Ma chère Rosine, qui ne m'a point offert de service, me rend le plus grand service qu'on puisse rendre à l'humanité. Elle m'aimait jadis, et même encore aujourd'hui. Aussi, je ne crains point de le dire, je l'aime avec une portion du même sentiment que j'accorde à mes amis. Qu'on en dise ce qu'on voudra. Chapitre 18. Nous avons laissé Johannetti dans l'attitude de l'étonnement, immobile devant moi, attendant la fin de la sublime explication que j'avais commencée. Lorsqu'il me vit enfoncer tout à coup la tête dans ma robe de chambre et finir ainsi mon explication, il ne douta pas un instant que je ne fusse resté court, faute de bonnes raisons, et de n'avoir par conséquent terrassé par la difficulté qu'il m'avait proposée. Malgré la supériorité qu'il en acquérait sur moi, il ne sentit pas le moindre mouvement d'orgueil et ne chercha point à profiter de son avantage. Après un petit moment de silence, il prit le portrait, le remit à sa place et se retira légèrement sur la pointe du pied. Il sentait bien que sa présence était une espèce d'humiliation pour moi, et sa délicatesse lui suggéra de se retirer sans m'en laisser apercevoir. Sa conduite dans cette occasion m'intéressa vivement et le plaça toujours plus avant dans mon cœur. Il aura sans doute une place dans celui du lecteur, et s'il en est quelqu'un d'assez sensible pour la lui refuser après avoir lu le chapitre suivant, le ciel lui a sans doute donné un cœur de marbre. Chapitre 19. Morbleu, lui dis-je un jour, c'est pour la 3e fois que je vous ordonne de m'acheter une brosse. Quelle tête, quel animal! Il ne répondit pas un mot. Il n'avait rien répondu la veille à une pareille incartade. « Il est si exact, disais-je, je n'y concevais rien. « Allez chercher un linge pour nettoyer mes souliers, lui dis-je en colère. » Pendant qu'il allait, je me repentais de l'avoir ainsi brusqué. Mon courroux passa tout à fait lorsque je vis le soin avec lequel il tâchait d'ôter la poussière de mes souliers sans toucher à mes bas. J'appuyai ma main sur lui en signe de réconciliation. Dis-je alors en moi-même, il y a donc des hommes qui décrottent les souliers des autres pour de l'argent? Ce mot d'argent fut un trait de lumière qui vint m'éclairer. Je me ressouvins tout à coup qu'il y avait longtemps que je n'en avais point donné à mon domestique. « Joannetti, lui dis-je en retirant mon pied, avez-vous de l'argent ?» Un demi-sourire de justification parut sur ses lèvres à cette demande. « Oh non, monsieur, il y a 8 jours que je n'ai plus un sou. J'ai dépensé tout ce qui m'appartenait pour vos petites emplettes. Et la brosse, alors c'est sans doute pour cela. » Il sourit encore. Il aurait pu dire à son maître « Non, je ne suis point une tête vide, un animal, comme vous avez eu la cruauté de le dire à votre fidèle serviteur. Payez-moi 23 livres, 10 sous, 4 deniers que vous me devez, et je vous achèterai votre brosse. » Il se laissa maltraiter injustement, plutôt que d'exposer son maître à rougir de sa colère. « Que le ciel le bénisse. Philosophe, chrétien, avez-vous lu ?»« Tiens, Joannetti, lui dis-je, tiens, cours acheter la brosse. » « Mais, monsieur, voulez-vous rester ici avec un soulier blanc et l'autre noir ?»« Va, te dis-je, acheter la brosse, laisse, laisse cette poussière sur mon soulier. » Il sortit, je pris le linge et je nettoyais délicieusement mon soulier gauche, sur lequel je laissais tomber une larme de repentir. Chapitre 20. Les murs de ma chambre sont garnis d'estampes et de tableaux qui l'embellissent singulièrement. Je voudrais de tout mon cœur les faire examiner aux lecteurs les uns après les autres, pour l'amuser et le distraire, le long du chemin que nous devons encore parcourir pour arriver à mon bureau. Mais il est aussi impossible d'expliquer clairement un tableau que de faire un portrait ressemblant d'après une description. Quelle émotion n'éprouverait-il pas, par exemple, en contemplant la première estampe qui se présente au regard? Il y verrait la malheureuse Charlotte essuyant lentement et d'une main tremblante les pistolets d'Albert. De noirs pressentiments et toutes les angoisses de l'amour, sans espoir et sans consolation, sont empreints sur sa physionomie, tandis que le froid Albert, entouré de sacs de procès et de vieux papiers de toute espèce, se tourne froidement pour souhaiter un bon voyage à son ami. Combien de fois n'ai-je pas été tenté de briser la glace qui couvre cette estampe pour arracher cet Albert de sa table, pour le mettre en pièces, le fouler aux pieds? Mais il restera toujours trop d'Albert dans ce monde. Quel est l'homme sensible qui n'a pas le sien, avec lequel il est obligé de vivre et contre lequel les épanchements de l'âme, les douces émotions du cœur et les élans de l'imagination vont se briser comme les flots sur les rochers? Heureux celui qui trouve un ami dont le cœur et l'esprit lui conviennent, un ami qui s'unisse à lui par une conformité de goût, de sentiments et de connaissances, un ami qui ne soit pas tourmenté par l'ambition ou l'intérêt, qui préfère l'ombre d'un arbre à la pompe d'une cour. Heureux celui qui possède un ami. Chapitre 21. J'en avais un. La mort me l'a ôté. Elle l'a saisi au commencement de sa carrière, au moment où son amitié était devenue un besoin pressant pour mon cœur. Nous nous soutenions mutuellement dans les travaux pénibles de la guerre. Nous n'avions qu'une pipe à nous deux, nous buvions dans la même coupe, nous couchions sous la même toile, et dans les circonstances malheureuses où nous sommes, l'endroit où nous vivions ensemble était pour nous une nouvelle patrie. Je l'ai vu en butte à tous les périls de la guerre et d'une guerre désastreuse. La mort semblait nous épargner l'un pour l'autre. Elle épuisa 1000 fois ses traits autour de lui sans l'atteindre. Mais c'était pour me rendre sa perte plus sensible. Le tumulte des armes, l'enthousiasme qui s'empare de l'âme à l'aspect du danger, aurait peut-être empêché ses cris d'aller jusqu'à mon cœur. Sa mort eût été utile à son pays et funeste aux ennemis. Je l'aurais moins regretté. Mais le perdre au milieu des délices d'un quartier d'hiver, le voir expirer dans mes bras au moment où il paraissait regorger de santé, au moment où notre liaison se resserrait encore dans le repos et la tranquillité. Ah, je ne m'en consolerai jamais. Cependant, sa mémoire ne vit plus que dans mon cœur. Elle n'existe plus parmi ceux qui l'ont remplacée. Cette idée me rend plus pénible le sentiment de sa perte. La nature, indifférente de même au sort des individus, remet en robe brillante du printemps et se pare de toute sa beauté autour du cimetière où il repose. Les arbres se couvrent de feuilles et entrelacent leurs branches, les oiseaux chantent sous le feuillage, les mouches bourdonnent parmi les fleurs, tout respire la joie et la vie dans le séjour de la mort. Et le soir, tandis que la lune brille dans le ciel et que je médite près de ce triste lieu, j'entends le grillon poursuivre gaiement son chant infatigable, caché sous l'herbe qui couvre la tombe silencieuse de mon ami. La destruction insensible des êtres et tous les malheurs de l'humanité sont comptés pour rien dans le grand tout. La mort d'un homme sensible qui expire au milieu de ses amis désolés et celle d'un papillon que l'air froid du matin fait périr dans le calice d'une fleur sont deux époques semblables dans le cours de la nature. L'homme n'est rien qu'un fantôme, une ombre, une vapeur qui se dissipe dans les airs. Mais l'aube matinale commence à blanchir le ciel. Les noires idées qui m'agitaient s'évanouissent avec la nuit et l'espérance renaît dans mon cœur. Non, celui qui inonde ainsi l'Orient de lumière ne l'a point fait briller à mes regards pour me plonger bientôt dans la nuit du néant. Celui qui étendit cet horizon incommensurable, celui qui éleva ces masses énormes dont le soleil dore les sommets glacés, est aussi celui qui a ordonné à mon cœur de battre et à mon esprit de penser. Non, mon ami n'est point entré dans le néant. Quelle que soit la barrière qui nous sépare, je le reverrai. Ce n'est point sur un syllogisme que je fonde mes espérances. Le vol d'un insecte qui traverse les airs suffit pour me persuader, et souvent l'aspect de la campagne, le parfum des airs et je ne sais quel charme répandu autour de moi élève tellement mes pensées qu'une preuve invincible de l'immortalité entre avec violence dans mon âme et l'occupe tout entière. Chapitre 22. Depuis longtemps, le chapitre que je viens d'écrire se présentait à ma plume, et je l'avais toujours rejeté. Je m'étais promis de ne laisser voir dans ce livre que la face riante de mon âme, mais ce projet m'a échappé comme tant d'autres. J'espère que le lecteur sensible me pardonnera de lui avoir demandé quelques larmes, et si quelqu'un trouve qu'à la vérité j'aurais pu retrancher ce triste chapitre, il peut le déchirer dans son exemplaire ou même jeter le livre au feu. Il me suffit que tu le trouves selon ton cœur, ma chère Jenny, toi la meilleure et la plus aimée des femmes, toi la meilleure et la plus aimée des sœurs, c'est à toi que je dédie mon ouvrage. S'il a ton approbation, il aura celle de tous les cœurs sensibles et délicats. Et si tu pardonnes aux folies qui m'échappent, quelquefois, malgré moi, je brave tous les censeurs de l'univers. Chapitre 23. Je ne dirai qu'un mot de l'estampe suivante. C'est la famille du malheureux Ugolin expirant de faim. Autour de lui, un de ses fils est étendu sans mouvement à ses pieds. Les autres lui tendent leurs bras affaiblis et lui demande du pain, tandis que le malheureux père, appuyé contre une colonne de la prison, l'œil fixé hagard, le visage immobile, dans l'horrible tranquillité que donne la dernière période du désespoir, meurt à la fois de sa propre mort et de celle de tous ses enfants, et souffre tout ce que la nature humaine peut souffrir. Brave chevalier d'Assas, te voilà expirant sous sans baïonnette, par un effort de courage, par un héroïsme qu'on ne connaît plus de nos jours. Et toi, qui pleures sous ces palmiers, malheureuse négresse, toi qu'un barbare, qui sans doute n'était pas anglais, a trahi et délaissé, que dis-je? Toi qu'il a eu la cruauté de vendre comme une vile esclave, malgré ton amour et les services, malgré le fruit de sa tendresse que tu portes dans ton sein, je ne passerai point devant ton image sans te rendre l'hommage qui est dû à ta sensibilité et à tes malheurs. Arrêtons-nous un instant devant cet autre tableau. C'est une jeune bergère qui garde toute seule un troupeau sur le sommet des Alpes. Elle est assise sur un vieux tronc de sapin renversé et blanchi par les hivers. Ses pieds sont recouverts par de larges feuilles d'une touffe de cacalia dont la fleur lilas s'élève au-dessus de sa tête. La lavande, le thym, l'anémone, la centaurée, des fleurs de toute espèce qu'on cultive avec peine dans nos serres et nos jardins et qui naissent sur les Alpes dans toute leur beauté primitive, forment le tapis brillant sur lequel errent ses brebis. Aimable bergère, dis-moi où se trouve le recoin de la terre que tu habites. De quelle bergerie éloignée es-tu partie ce matin au lever de l'aurore? Ne pourrais-je y aller vivre avec toi? Mais hélas, la douce tranquillité dont tu jouis ne tardera pas à s'évanouir. Le démon de la guerre, non content de désoler les cités, va bientôt porter le trouble et l'épouvante jusque dans ta retraite solitaire. Déjà, les soldats s'avancent, je les vois gravir de montagne en montagne et s'approcher des nues. Le bruit du canon se fait entendre dans le séjour élevé du tonnerre. Fuis, bergère, presse ton troupeau, cache-toi dans les antres les plus reculés, les plus sauvages. Il n'est plus de repos sur cette triste terre. Chapitre 24. Je ne sais comment cela m'arrive. Depuis quelque temps, mes chapitres finissent toujours sur un ton sinistre. En vain, je fixe en les commençant mes regards sur quelque objet agréable. En vain, je m'embarque par le calme. J'essuie bientôt une bourrasque qui me fait dériver. Pour mettre fin à cette agitation qui ne me laisse pas le maître de mes idées, et pour apaiser les battements de mon cœur, que tant d'images assandrissantes ont trop agité, je ne vois d'autre remède qu'une dissertation. Oui, je veux mettre ce morceau de glace sur mon cœur. Et cette dissertation sera sur la peinture, car de disserter sur tout autre objet, il n'y a point moyen. Je ne puis descendre tout à fait du point où j'étais monté tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le dada de mon oncle Toby. Je voudrais dire en passant quelques mots sur la question de la prééminence entre l'art charmant de la peinture et celui de la musique. Oui, je veux mettre quelque chose dans la balance, ne fût-ce qu'un grain de sable, un atome. On dit en faveur du peintre qu'il laisse quelque chose après lui. Ses tableaux lui survivent et éternisent sa mémoire. On répond que les compositeurs en musique laissent aussi des opéras et des concerts, mais la musique est sujette à la mode et la peinture ne l'est pas. Les morceaux de musique qui attendrissaient nos aïeux sont ridicules pour les amateurs de nos jours, et on les place dans les opéras bouffons pour faire rire les neveux de ceux qu'ils faisaient pleurer autrefois. Les tableaux de Raphaël enchanteront notre postérité, comme ils ont ravi nos ancêtres. Voilà mon grain de sable.